France Info.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est la patronne du gendarme boursier qui est avec nous ce soir. Bonsoir Marianne Barbalayani.
Bonsoir Camille Revel.
Vous êtes la présidente de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Vous êtes chargée de veiller à la protection de l'épargne investie en produits financiers, à l'information des investisseurs, au bon fonctionnement des marchés aussi. On va parler de ce dont on ne va pas parler d'abord. Vous ne parlerez pas d'Atos ce soir.
Non, je ne parlerai pas d'Atos, c'est un dossier sur lequel je me déporte. Pour des raisons d'homonymie avec un des protagonistes de cette affaire très importante. Évidemment, je comprends que ça vous intéresse, mais désolé, je ne peux pas
me pencher sur ce dossier. C'est la règle du jeu. Vous publiez à l'AMF, comme chaque trimestre, un tableau de bord des investisseurs, c'est-à-dire un état des lieux des particuliers qui ont réalisé au moins une transaction sur un instrument financier. Que doit-on en retenir en priorité ?
On peut en retenir plusieurs choses. D'abord, les particuliers sont actifs. Il y a 737 000 Français qui ont fait des transactions sur le premier trimestre de l'année 2024. C'est à peu près stable. Ils rajeunissent et il y a des nouveaux investisseurs. Donc, on a 59 000 personnes qui n'avaient jamais investi sur les marchés financiers, qui ont investi sur les marchés financiers. Donc, c'est intéressant. Ça prouve qu'il y a un regain d'intérêt. Et peut-être le troisième enseignement, c'est la montée en puissance d'un instrument financier qu'on appelle les fonds indiciels cotés, les ETF. Et pour la première fois, au cours de ce trimestre, il y a eu plus d'un million de transactions sur ce type d'instrument. Donc, c'est intéressant à voir parce qu'on voit que c'est un nouvel instrument qui attire.
Alors, vous parlez de jeunes investisseurs, c'est-à-dire quelle proportion de ces nouveaux investisseurs ou des investisseurs tout court est jeune? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle jeune? C'est quoi? C'est moins de 24 ans, moins de 35 ans?
Alors, ce sont de nouveaux investisseurs. Donc ça, des nouveaux investisseurs, on en a vu arriver. Ce baromètre, ce tableau de bord, on le suit tous les trimestres. On en a vu arriver à peu près 1 million depuis 2020. Et ces investisseurs, il y en a 56% qui ont moins de 35 ans. Donc, c'est pour ça que je parle de jeunesse et de rajeunissement de l'investissement. Et on le voit d'ailleurs sur les gens qui investissent dans ces fameux ETF. Ils sont aussi plus jeunes. Donc, il y a un rajeunissement des investisseurs. Et d'ailleurs, ça a attiré notre attention parce que, comme vous l'avez dit, notre première mission, c'est la protection des épargnants. On fait beaucoup de choses là-dessus. Et la première chose qu'on a voulu faire, constatant effectivement l'arrivée de ces nouveaux investisseurs, c'est de mieux les connaître. Et donc, on a fait réaliser par l'OCDE une étude sur les nouveaux investisseurs pour mieux comprendre qui ils étaient et mieux les connaître, et à terme aussi, ça sera la deuxième partie des travaux, avoir une pédagogie financière qui soit plus adaptée à ces nouveaux investisseurs.
Alors, qu'est-ce que vous savez justement de ces nouveaux jeunes investisseurs?
Alors, ils sont jeunes, effectivement, mais il y a aussi des moins jeunes, il y a des nouveaux investisseurs, beaucoup sont jeunes, mais pas que. Et ils sont souvent, ils s'intéressent beaucoup aux crypto-actifs. Sur ces nouveaux investisseurs.
On parle beaucoup de crypto-monnaies, c'est
vrai. Tout à fait. Alors, on parle plutôt de crypto-actifs que de crypto-monnaies, mais c'est un détail. Donc, ils sont cryptophiles. C'est-à-dire qu'effectivement, il y en a plus de la moitié de ces nouveaux investisseurs qui ont investi en crypto. Au niveau de la population en général, c'est déjà un phénomène qui est très tangible, puisqu'on a plus de Français qui ont aujourd'hui, qui détiennent en direct des crypto-actifs que des actions cotées. Donc, vous voyez que c'est un phénomène qui est assez massif. L'autre enseignement, pardon, je vous repasse là. L'autre enseignement qui est important, c'est que ils se renseignent beaucoup, mais c'est assez normal sur les réseaux sociaux.
Sur les réseaux sociaux, c'est ce
que
j'allais vous demander.
Et le troisième enseignement qui attire un peu notre attention, c'est qu'ils surestiment un peu leurs compétences en matière financière. Donc, ils ont tendance à avoir peut-être un petit peu trop confiance dans leur capacité à bien évaluer ce qu'il faut qu'ils choisissent comme investissement et à bien aller au-devant de ce qui est bien
et
pour eux,
dirons-nous. À ce moment-là, que peut faire l'AMF? Comment pouvez-vous conseiller, orienter, aider à éviter tout simplement de se faire arnaquer?
Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est de rappeler quelques conseils importants. Il n'y a pas de rendement sans risque. Donc, si vous avez une publicité mirifique qui vous explique que vous allez devenir milliardaire sans prendre le moindre risque, attention, attention. Ensuite, il y a beaucoup d'arnaques. Donc, première chose à faire, un intermédiaire financier s'adresse à vous. Essayez de voir s'il n'est pas sur les listes noires de l'AMF. Très important parce que qu'on peut trouver en ligne sur notre site. Parce que effectivement, il y a beaucoup d'arnaques. Il y a aussi beaucoup d'usurpations d'identité, mais ça, c'est pas spécifique au monde financier. Simplement, là aussi, ce qui a attiré notre attention, c'est que nous avons constaté dans ces études que nous faisons régulièrement, il y a 15% des Français qui disent avoir été victimes d'une arnaque financière, 15%. Et chez ces fameux plus jeunes, les moins de 35 ans, c'est 35%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la problématique des arnaques financières, elle est massive. Et que donc, nous devons effectivement, nous, beaucoup monter en puissance pour communiquer davantage auprès de ces investisseurs, leur mettre quelques phares ou quelques warnings ou quelques feux rouges pour qu'ils aient les bons réflexes. Parce qu'après, on ne peut pas mettre une personne, un collaborateur de l'AMF, derrière chacun des investisseurs, évidemment. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à avoir une pédagogie financière qui soit très ciblée et qui leur permette effectivement d'avoir les bons réflexes.
Et vous travaillez sur la question des influenceurs ?
Bien sûr, on y a beaucoup travaillé. Vous avez vu que le gouvernement a fait l'année dernière tout un travail sur les investisseurs qui a donné lieu à une loi d'ailleurs. La question des investisseurs, des influenceurs, financiers, que nous appelons nous les fin-influenceurs, elle est très importante parce que ça fait partie des canaux d'information qu'utilisent beaucoup les nouveaux investisseurs et notamment les plus jeunes d'entre eux. Et donc là, on a travaillé avec l'autorité de régulation de la publicité pour faire un certificat de l'influenceur responsable en matière financière pour que effectivement il y ait des principes de base qui soient bien respectés par les influenceurs lorsqu'ils vont intervenir dans un secteur qui est très réglementé et je dirais pour de bonnes raisons. Donc, il ne faut pas y aller sans savoir qu'il y a des règles qui s'appliquent.
Et on n'hésite pas à aller voir les listes noires qui sont en ligne sur le site de l'AMF. En tout cas, on se renseigne, on ne s'informe pas forcément que sur les réseaux sociaux.
On prend le temps de prendre sa décision. On ne se précipite pas. Si quelqu'un vous met la pression pour prendre une décision très, très, très vite en vous faisant miroiter des rendements fabuleux, méfiez-vous, faites une pause, prenez le temps de réfléchir.
Prenez le temps de le réfléchir. Merci beaucoup, Marianne Barbalayani. Vous êtes la présidente de l'AMF et l'invitée Écho de France Info.